Nous avons ainsi curieusement deux histoires imbriquées, deux guérisons. En fait, l'une qui est la résurrection de la fille de Jaïrus, le chef de la synagogue, et l'autre qui est la guérison de cette femme qui avait une hémorragie de sang depuis 12 ans. Ces deux miracles mélangés sont une chose assez curieuse, et on peut d'abord les concevoir indépendamment, et on peut très bien étudier chaque miracle séparément. Vous savez que le principe général, je pense, c'est que quand on veut trouver du sens à ces miracles, c'est de les interpréter symboliquement, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui a des problèmes gynécologiques ne va pas voir un pasteur ou un prêtre, et nous n'attendons pas lors des enterrements que les gens ressuscitent corporellement. Et donc, il s'agit bien pour nous d'y trouver un message d'un autre ordre. Et là, l'interprétation n'est pas très compliquée. On peut arriver à trouver à peu près ce que cela peut signifier. La fille de Jaïrus, on peut dire que Jésus ressuscite ce qui était le plus précieux pour un homme, c'est-à-dire sa descendance. Il lui permet de sauver sa fécondité. Et la fécondité, c'est une chose essentielle dans la Bible. C'est la capacité à transmettre, à donner, et à ce que notre vie ne reste pas renfermée sur elle-même comme une boule d'égoïsme condamnée à la mort, mais que notre vie se donne aux autres et se donne tellement que finalement elle se vide pour donner la vie aux autres à un tel point que la mort elle-même n'emporte plus rien. Donc la question de la fécondité, Jésus va sauver cet homme au niveau de sa descendance. Et quant à la femme hémorroïs, on comprend aussi à peu près de quoi il s'agit. Dans la Bible, ces pertes de sang étaient considérées comme une impureté, et donc une telle femme ne devait avoir aucun contact avec personne. Elle était rejetée de la société. Et donc on voit que Jésus réintègre cette femme exclue, elle la remet dans la société, dans le monde. Et tiens, au passage, elle lui permet aussi de retrouver une fécondité. Donc cela, je le comprends à peu près, on pourrait l'étudier en détail, mais je n'ai pas le temps de le faire. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'essayer de savoir pourquoi ces deux récits sont ensemble. Et là, c'est curieux parce que j'ai lu à peu près tous les commentaires savants faits par les chrétiens sur ces textes, et la quasi-totalité sont incapables de trouver le lien. Ils disent probablement qu'on les a mis ensemble parce que dans les deux cas, il y a 12. La femme était malade depuis 12 ans et la fille avait 12 ans, donc le rédacteur a dû trouver qu'il y avait un lien et on les a mis ensemble. Mais pratiquement aucun ne parvient à expliquer pourquoi l'un donne sens à l'autre et l'autre donne du sens au premier. Et donc pourquoi les deux ensemble? Alors je vous l'ai dit, peut-être que parce qu'il y a des points communs entre les deux. C'est vrai que les deux parlent de fécondité, cette chose essentielle d'être capable de donner, transmettre. Et du coup, ces deux exemples, finalement assez différents, nous montreraient que cette bonne nouvelle que Jésus peut nous donner à nous, la capacité de transmettre et de donner, eh bien, c'est valable pour tout le monde. Pour les jeunes comme pour les vieux, pour les enfants de 12 ans et aussi pour les gens qui ne sont plus enfants depuis certainement plus de 12 ans. Et c'est vrai aussi, c'est valable pour les riches comme pour les pauvres. Le chef de la synagogue ne devait pas être dans le besoin. Quant à cette femme, elle avait dépensé tous ses sous, donc elle n'en avait plus. Donc elle était pauvre, ne pouvait rien donner. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle est aussi valable pour ceux qui sont très bien implantés socialement, qui ont de la considération, de l'importance sociale. Et aussi pour les pauvres gens qui sont rejetés par tout le monde, qui sont anonymes au milieu de la foule, qu'on ne reconnaît pas et qui ne peuvent qu'essayer d'approcher par derrière pour prendre les miettes d'une présence spirituelle. Donc oui, vraiment, c'est important pour tout le monde. Et je crois que c'est une bonne nouvelle qui nous touche tous. Et puis on voit encore autre chose, c'est que justement ces deux récits qui sont finalement assez proches dans le résultat, se font avec des modes de mise en relation très différents. On voit qu'à chaque fois déjà, ils abordent leurs problèmes par rapport à Jésus d'une manière qui leur est propre. Le chef de la synagogue, lui, c'est un chef. Donc il a l'habitude de donner des ordres. Alors il va voir Jésus et lui explique ce qu'il doit faire. C'est assez drôle. Il lui dit, tu vas venir à la maison, tu vas imposer les mains et tu vas guérir ma fille. Finalement, la fille sera guérie. Mais Jésus n'aura pas fait du tout ce qu'aura demandé le chef. Il n'aura pas imposé les mains. Et puis d'abord, il ne sera pas venu tout de suite, parce qu'entre-temps, il va s'occuper de l'autre. Donc déjà, il ne va pas obéir à ce que demande le chef. Et la femme, c'est pareil. La femme, elle a une demande totalement magique. Elle se dit, si je pouvais toucher le bord du vêtement, je serais guéri. Attendez, c'est ridicule. Jésus, ce n'est pas Harry Potter avec son manteau magique. Cette idée de toucher un manteau pour être guéri, c'est tout sauf l'Évangile. Donc, je dirais, les deux démarches de ces deux personnages sont complètement à côté de ce qu'il faudrait faire. Mais pourtant, les deux vont aboutir. Et ça me rassure. Parce que je me dis que moi-même, finalement, j'ai une démarche spirituelle vis-à-vis du Christ, vis-à-vis de Dieu, qui est en fonction de ce que je suis. Et certainement que cette démarche est maladroite. Parce que certainement que je me trompe sur ce que je peux attendre de Dieu, sur qui il est, sur ce qu'il doit faire. Et certainement, dans mes prières, je suis maladroit, je demande ce que je ne devrais pas demander, j'attends ce que je ne devrais pas attendre. Et je vois là que, finalement, peu importe qu'on se trompe dans la demande. Ce qu'elles ont eu de commun, ces deux personnages-là, c'est que tous les deux, ils sont allés vers le Christ et qu'ils lui ont demandé quelque chose. Et ça me rassure assez. Cela veut dire que l'important, c'est d'aller vers le Christ et puis, d'une certaine manière, de le laisser faire avec confiance. Après, on pourrait regarder, alors, vous me direz, mais alors, quelle est la bonne méthode ? Eh bien, là encore, c'est très désarçonnant parce qu'on voit que Jésus ne va absolument pas appliquer la même méthode pour l'un comme pour l'autre. C'est même tout différent. C'est-à-dire que pour la femme, il va la guérir au milieu de la foule, devant tout le monde, et va lui dire « Montre-moi qui tu es, dis-moi ton problème », avec une foule entière autour. Et pour la fille de Jaïrus, Jésus va faire le contraire. Il va mettre tout le monde dehors, allez, dehors, et il ne va prendre dans la chambre que la fillette, le père, la mère et deux disciples. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un cas où il va y avoir quelque chose de très public et dans l'autre quelque chose de très intime. Alors ça veut dire qu'en fait je ne peux pas savoir quelle est la méthode du Christ pour nous guérir. Parce que chaque rencontre va être différente et chacun en fonction de ce qu'il a besoin, Jésus va apporter quelque chose de différent. Et c'est pourquoi je milite et nous militons dans cette Église pour une extrême ouverture en disant écoutez, il n'y a pas deux expériences spirituelles semblables. Chacun a sa propre expérience de la rencontre avec le Christ. Et l'un sera guéri parce que pour lui, Jésus sera ci ou sera ça. Et pour l'autre, il sera guéri parce que pour lui, Jésus sera tout à fait autre chose. Et donc, il n'y a pas d'archétype, de modèle, type, je dirais, de la bonne relation au Christ qui permet d'être sauvé. C'est à chacun de faire cette relation à sa manière. Et chacun va avoir du Christ qui lui manque. Peut-être que pour Jaïrus, le problème de sa fille, et Jésus l'a vu, c'est qu'en fait, c'était un homme public. Ils étaient toujours avec tout le monde, avec du monde partout, plein la maison, et c'était comme, je dirais, certaines familles pastorales qui sont envahies, dévorées par la paroisse, qui n'a plus de limites, et les enfants parfois souffrent du fait qu'ils n'ont plus de vie d'intimité. Et Jésus va leur dire, vous voyez, ce qui vous manque, c'est ça, vous, dans votre famille, là. Trouvez un moment pour être tout seul dans votre cellule familiale avec le Christ, ou tout seul entre vous, et ça remettra les choses en ordre. La femme, c'est le contraire. Elle était au milieu de la foule, mais elle était seule au milieu de la foule. Et ce dont elle aura besoin, c'est d'être au contraire réintégrée dans la foule, qu'elle soit plus exclue, et qu'elle soit reconnue comme guérie au milieu de tout le monde. Et donc cette femme, elle avait besoin de cette foule, de ce monde autour d'elle, de cette communauté qui l'entoure et qui l'accueille. Et donc chacun a besoin de choses différentes. Certains ont besoin de prier le Christ seul dans leur cœur, d'autres d'aller dans des grands rassemblements, des rassemblements internationaux où il y a 20 000 protestants ou 1 million de catholiques pour les JMJ. Chacun a sa sensibilité, certains sont très heureux à taiser ou dans des groupes comme ça, et d'autres s'y sentent très mal. Écoutez, je ne sais pas, le principal, c'est d'être quelque part avec le Christ. Et puis autre petite leçon, c'est que donc il faut être disponible à la méthode que Jésus voudra bien. Donc oui, j'aborde Jésus maladroitement avec ma manière, après laissez-le faire, laissez-le faire. Et puis et assumez votre mode de relation au Christ. Et puis après, autre leçon, c'est que Jésus fait comme il veut, mais il fait aussi quand il veut. Parce que là, c'est drôle, vous voyez, Jésus va donc suivre Jaïrus pour ressusciter sa fille. C'est extrêmement urgent, elle est en train de mourir. Et puis voilà qu'il rencontre cette femme qui est malade, mais ça fait 12 ans qu'elle est malade, il n'y a pas d'urgence. Il aurait pu attendre le lendemain pour la guérir. C'était la fille qui était urgente. Et voilà que Jésus traîne. Il traîne en route pour guérir cette femme qui n'avait rien d'urgent, tant et si bien que la fillette meurt. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que les choses n'arrivent pas toujours au moment où nous le voulons. Et parfois, il faut avoir le courage d'attendre. Et non seulement les choses ne se passent pas avec Dieu comme nous l'envisagions, c'est-à-dire qu'on a un projet pour notre relation à Dieu, pour notre vie, et c'est autre chose qui se passe, mais aussi le temps lui-même n'est pas forcément celui que nous aurions voulu. Donc, leçon générale de ces doubles guérisons, patience. Patience et confiance. Parce que Dieu choisit lui-même le temps. Il n'est jamais trop tard pour qu'il intervienne. Leçon à Jaïrus. Vous dites, c'est trop tard, elle est morte, c'est plus à peine de venir. Il n'est jamais trop tard. Même si on croit que c'est trop tard, il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas à désespérer. Et puis, qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que ce temps que Jésus a mis pour venir vers la fillette était peut-être nécessaire à la guérison. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Parce que, voilà, autrement dit, j'ai trouvé là des liens entre ces textes par le fait que simplement ils sont différents et que ça donne de l'ouverture. D'accord. Mais maintenant, voyons aussi ce qui les relie et quel est le point commun. Je vous l'ai dit, le point commun, le plus visible, c'est le nombre 12. La fillette qui a 12 ans et la femme qui est malade depuis 12 ans. Et ça n'est évidemment pas un hasard. Et on peut en faire plusieurs lectures. Il y en a une qui est devenue un peu connue parce qu'elle a été initialisée, je crois, par Françoise Dolto. Et je vais la présenter à ma manière, qui n'est pas la sienne. C'est la lecture psychanalytique de l'affaire. À mon avis, elle est juste. À mon avis, elle n'a à peu près aucun intérêt dans une prédication. Mais je ne peux pas m'empêcher du plaisir intellectuel de vous la livrer parce que ça fonctionne très bien. Je vais donc faire un peu vite. Écoutez bien. 12 ans, c'est l'âge où la petite fille devient femme. Et donc on voit là la difficulté du passage à l'âge adulte. D'accord ? Et on voit qu'en effet, son problème à cette petite fille, c'est qu'elle ne parvient pas à grandir et qu'elle ne parvient pas à passer le cap où elle va devenir femme. Et les psychologues donc disent que c'est tout simplement parce que son père l'étouffait. On voit en effet dans le texte qu'au début, il l'appelle « petite fille ». Attendez, à 12 ans, elle a presque le droit d'être mariée dans Israël ancienne, alors pas une petite fille. Et puis on voit qu'elle va grandir petit à petit. Elle est appelée petite fille, puis enfant, grande fille. Donc elle va grandir grâce à Jésus. Et en effet, peut-être que c'est là le sens de l'attente. Je vous ai dit peut-être que Jésus a fait exprès d'attendre. Parce que peut-être que pour que la fille puisse grandir, il fallait que le père fasse le deuil de son bébé. Voilà. Et que donc c'est pour ça qu'il fallait que la fille meure vraiment pour revivre. Il fallait que le père accepte que sa petite fille, son petit bébé, sa petite chose ne soit plus là pour accepter d'accueillir un enfant adulte en quelque sorte. Et c'est peut-être ça le sens de ce temps qui était passé. Et puis la question que posent les psychologues, c'est la mère, elle est où là-dedans? Pourquoi c'est le père qui amène l'enfant? Et elle est où la mère? Il n'y a pas de mère. Il manque la mère. On n'en parle pas. Et on se dit, tiens, peut-être que justement, le problème, c'était l'absence de la mère, ou plutôt l'image de la mère. Parce que je vous dis qu'il n'y a pas de femme dans cette histoire, mais si, il y en a une justement, il y en a une qui arrive là. Il y a une mère qui arrive et qui est cette femme-là qui perd son sang depuis 12 ans. Et est-ce que par hasard, c'est pas ça le problème de la fillette? C'est qu'elle avait une image de la femme totalement détériorée. Pour elle, la femme, c'était ça, c'était cette femme malade. C'est quelqu'un qui perd du sang continuellement et qui est rejetée dans la société, qui ne peut qu'approcher par derrière parce qu'elle n'a aucun rôle, aucune place dans la société et qu'elle est condamnée à saigner. Voilà. Et comment voulez-vous devenir femme si on vous propose ce genre de modèle? Alors la fille ne pouvait pas grandir. Et Jésus, pour guérir la fille, commence par guérir l'image de la femme. Pour ça qu'elle guérit la femme d'abord. Et la femme, il lui dit, voilà, le sang, d'accord, mais on va rentrer ça dans l'ordre à sa juste place. Ni trop, ni trop peu. Et la place dans la société, je la remets dans la société. Elle devient une femme qui a sa place, qui est bien, bien dans l'ordre, bien réglée, je dirais. Et alors, enfin, la fille pourra s'identifier à quelque chose. Et elle pourra en effet arriver à grandir. Et je dirais qu'à la fin, effectivement, à la fin de l'histoire, et là les psychologues ont raison, à la fin de l'histoire, curieusement, quand la fille est guérie, la mère réapparaît. Jésus dit qu'il fait venir là le père et la mère, qui enfin est là parce que la mère est rétablie. Et je dirais que finalement, la mère, c'était peut-être symboliquement un peu cette femme malade. Et c'est comme ça que ça va se passer, parce que pour vivre, on a besoin qu'on restaure l'image de la mère femme, et pour vivre et grandir, on a besoin de ses deux parents. N'y voyez aucune allusion avec la manifestation qui va avoir lieu tout à l'heure à 13h, Porte Dauphine, c'est un hasard total. Et les rôles peuvent être joués symboliquement par l'un ou par l'autre. Et il n'y a pas que les parents qui donnent des images de ce que l'on est invité à être. Voilà. En tout cas, voilà. C'est donc ce que fait Jésus. Et à la fin, la fille peut vivre et elle retrouve ses deux parents et tout va bien. Bon. C'est intéressant intellectuellement. Mais bon, tout le monde n'a pas une fillette de 12 ans à élever. Et surtout moi qui ai trois garçons et pas de fille. Je me sens un peu exclu de ce genre de leçon de morale, et donc je ne peux pas limiter le texte à ça, et je ne peux donc penser qu'il faille sortir de cette lecture psychologique pour en faire une lecture théologique. Et se dire que cette question, donc je vous l'ai dit au début, c'est pas tellement la question de l'éducation des filles, mais c'est la question de la fécondité. Parce que l'une et l'autre de ces deux personnes sont en fait en marge de la fécondité. Il y a la fillette qui peut devenir féconde et qui a failli mourir avant de l'être, et il y a la femme qui ne parvient plus à l'être. Et Jésus va donner à chacune la fécondité et la possibilité de maternité. Alors donc, voyons, qu'est-ce qui bloquait la fécondité dans ces deux cas? Et qu'est-ce qui peut empêcher dans notre vie de nous ouvrir à l'autre? C'est ça la question. Et là, je reprends mon nombre 12, et je vous dis que le nombre 12 n'est pas que l'âge de la puberté chez la fille. 12, c'est aussi un nombre très important dans la Bible, qui est le nombre de l'Alliance. C'est les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 apôtres. C'est-à-dire que 12, c'est le nombre de la façon de combiner Dieu avec sa vie courante. Parce que Dieu, c'est 3, c'est la Trinité, et le monde matériel, c'est le 4 des 4 points cardinaux. Et donc j'additionne les deux, j'essaye de mettre ensemble ma vie spirituelle et ma vie matérielle, et on voit ce que ça donne. Je me dis, tiens, c'est vrai, ça tombe pas mal, parce que Jaïrus était chef de la synagogue, et donc il représente pour moi le summum de la pratique religieuse, de la religion avec ses règles, ses rites, ses pratiques et tout ça. Et on voit que Jaïrus, donc sa pratique religieuse ultra traditionnaliste, je dirais, n'est pas totalement stérile. Elle donne naissance à quelque chose qui est une petite fille. Fille qui peut-être d'ailleurs est la fille de Sion, c'est-à-dire le peuple lui-même. Enfin bref, ça donne naissance à quelque chose qui est vivant, mais malheureusement pas totalement vivant. C'est-à-dire que cette foi qui est la sienne, elle bute sur quelque chose qui est la capacité à devenir adulte. C'est-à-dire qu'il reste dans une foi qui devient stérile parce qu'elle reste une foi infantile, une foi qui est dans l'obéissance, dans la soumission. Et le but, c'est d'arriver à ce que notre vie spirituelle engendre quelque chose d'autonome, voilà, quelque chose de grand et de libre. Et ça, c'est très difficile. Quand on est dans la soumission, dans l'obéissance, et qu'on dit l'important dans la religion, c'est de faire ce qu'on vous commande, de croire ce que l'on vous enseigne, eh bien, on ne peut avoir qu'une foi infantile, soumise, qui elle-même a beaucoup de mal à transmettre, je dirais, de la vie. Et Jésus va l'aider à aller plus loin, va lui permettre d'arriver à une foi qui se revitalise. Et sa foi, elle s'était endormie, nous dit-on, et elle était devenue comme morte. Et c'est Jésus qui va permettre d'aller plus loin. Et la femme hémorroïse, c'est pareil. Ça fait 12 ans qu'elle est là et en fait condamnée une fois de plus par une religion qui lui disait « tu es impur, tu n'as pas le droit d'être dans la société, pas le droit d'aller au temple, rien ». Et donc cette religion rigide, non seulement elle enferme ceux qui sont dedans, et elle exclut ceux qui n'y sont pas. Donc vraiment, ça laisse quand même pas beaucoup de chance. Et Jésus va réussir à les aider l'un comme l'autre, en montrant qu'on peut aller au-delà de la pratique d'église et au-delà des règles. Parce qu'en effet, tout ça nous montre que Jésus va... On va être sans arrêt ensuite dans la transgression des règles. Alors on peut le comprendre à la manière évangélique en disant l'important c'est d'aller vers Jésus. Et si on va vers Jésus, eh bien tout s'éclaire parce que Jésus est un ami fidèle et tout va bien. C'est à la fois vrai et pas totalement vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit là que les méthodes humaines pour donner sens à sa vie ne sont pas suffisantes. Aussi bien les méthodes de règles religieuses, qui n'ont pas suffi, visiblement, et même les méthodes humaines, comme la femme qui s'est dit « la science permettra de redonner sens à ma vie ». Les médecins, eh bien les médecins n'ont rien fait du tout, et même son argent n'a servi à rien. Alors les médecins soignent le corps, mais là il s'agit de l'âme, il s'agit de sa capacité à aller vers l'autre et à transmettre la vie spirituellement. Et pour ça, l'argent, la science n'y peut rien du tout. Il faut, à un moment donné, je dirais justement, sortir des règles pour faire sa démarche personnelle en allant vers Jésus et sortir des usages. Et ça, on le voit parce que, dans les deux cas, il s'agit de rentrer dans une relation personnelle avec Jésus. C'est vrai pour la femme qui touche Jésus. Et les disciples disent « mais il y a plein de monde, tout le monde te touche ». Il dit « non, il y en a une qui m'a touché moi, il y a une relation particulière ». Et c'est vrai aussi pour Jaïrus, il va chez lui et il demeure dans l'intimité avec lui. Et donc l'important c'est de trouver ce contact intime avec Jésus. Ensuite on peut voir plus précisément ce qu'il s'agit, si vous n'êtes pas un grand Jésus-lâtre. Là c'est l'histoire du vêtement. On nous dit que la femme sera guérie en touchant le bord du vêtement. Et ça, c'est très important parce que je vous ai lu tout à l'heure le passage dans le livre des Nombres au chapitre 15. Le bord du vêtement, c'était ce qui a été dit donc à Moïse dans le cadre d'une affaire épouvantable de cet homme qui a transgressé la loi en ramassant du bois le jour du sabbat. Bon, ça ne me semble pas dramatique, mais apparemment ça l'est. Et à un tel point qu'il est condamné à mort. Donc voilà, tu n'auras pas respecté la loi, tu es tué. Et Dieu dit, vous mettrez des franges sur vos vêtements pour vous rappeler qu'il y a une loi et que si vous la transgressez, vous serez condamné à mort. Donc avouez que ces franges sur le vêtement de Jésus, c'est tout sauf une bonne nouvelle. C'est l'extrême, c'est le comble de la violence d'une religion cadrée qui veut enfermer les gens dans des lois et dans des règles et qui est prêt à tuer ceux qui ne respectent pas ces règles. C'est effroyable. Et voilà que cette femme va toucher les franges du manteau de Jésus. Mais je vous l'ai dit, il lui était absolument interdit de s'approcher de qui que ce soit. Et dans cette même loi juive, à l'époque, on disait qu'une femme ne devait pas toucher un homme quand elle avait des pertes de sang. C'était une transgression. Et donc cette femme qui transgresse la loi, elle se permet d'aller toucher la frange du vêtement. C'est absurde. Elle est là simplement pour dire, je transgresse et en plus je me rappelle que si je transgresse, on va me tuer, une forme de suicide. Eh bien non, ce n'était pas un suicide. C'est une parole absolument extraordinaire que je vois dans cette histoire. C'est une perversion totale du système. Et cette femme, je pense qu'elle croit dans la présence de Dieu. Et elle le croit d'une autre manière que celle de la loi. Parce que ces franges, on nous dit aussi, vous mettrez à chaque fois deux fils blancs et un bleu, et ils seront mélangés. Le bleu, c'est la couleur du ciel. Ce sera pour vous rappeler que Dieu est entièrement mêlé à votre vie et à votre histoire. Et la femme se dit, ça j'y crois. Mais le fait que la présence que Dieu soit mêlée à ma vie soit son source de mort, sûrement pas. Et du coup, elle envoie balader tout ce qu'elle a appris au catéchisme, et elle se dit, moi je crois que cette présence de Dieu dans ma vie, ce ne sera pas pour la mort, mais pour la vie. Parce qu'elle va découvrir que Dieu, justement, n'est pas un lieu de condamnation, de jugement et d'exclusion, mais que la présence de Dieu dans la vie, ce n'est que source, je dirais, d'accueil, de tendresse, de bonté, de guérison, d'aide et d'amour et de douceur. Et ça, c'est une très grande découverte. C'est pourquoi, d'ailleurs, Jésus va lui dire, c'est ta foi qui t'a sauvé, ta foi est grande. Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'a pas parlé avec elle. Et en quoi croit-elle? Je n'en sais rien. Mais il dit, vous voyez, elle est formidable parce qu'elle a eu d'abord le courage de faire sa propre relation à Dieu, de sortir des règles, de transgresser même les règles de la bienséance religieuse et de se dire, ma relation à Dieu, c'est une relation personnelle que je vais, moi, construire avec Dieu et que ça plaise aux autres ou pas, je m'en fiche. Je ne suis pas là de faire comme tout le monde, comme les normes, comme il faudrait, comme fait les autres, mais moi, ma relation à Dieu, je crois que c'est une source de vie, de paix, de pardon et d'amour. Et ça, c'est là. Mais écoutez, c'est tout l'Évangile. Voilà, c'est tout l'Évangile. L'Évangile, c'est rien d'autre. Dieu est une source de pardon, de paix, d'accueil, de tendresse et d'amour. Et c'est elle qui a fait cette grande chose extraordinaire. Donc, elle sera sauvée par... même là, je dirais, son indépendance d'esprit, par sa volonté d'une relation personnelle à Dieu en faisant fi de toutes les convenances extraordinaires et en transgressant la loi. Et grâce à ça, ça va aussi faire une leçon pour Jaïrus, en passant. Parce que si la femme est impure et qu'elle touche Jésus, par contamination, Jésus est impur et il n'a le droit d'entrer dans aucune maison et sûrement pas dans la maison d'un chef de synagogue. Et voilà que pour guérir sa fille, le chef de synagogue devra faire le contraire de ce qu'il a toujours enseigné et avoir des relations avec un homme impur. Et que ce soit cet homme impur qui vienne chez lui et qui guérisse sa fille, c'est le comble du camouflet. Et Jaïrus aura compris quelque chose là aussi, je crois. C'est qu'il faut sortir des intégrismes, sortir des religions qui excluent et qui normatise toute chose pour trouver une relation humaine facile et naturelle avec les uns et les autres et qu'il faut trouver la vie et la tolérance. Et elle a compris ainsi cette chose extraordinaire et je pense qu'elle a compris aussi qu'en Dieu, tout le monde est pur, voilà, et qu'en Dieu, tout le monde a le droit de s'approcher du salut sans crainte. Peut-être aussi que ces franges de Jésus, ça représente la loi, et vous le savez, Jésus, pour lui, il y a une nouvelle loi, qui n'est pas ces lois qui te condamnent, mais cette nouvelle loi, c'est la loi de l'amour. Et elle s'approche de l'amour, et c'est ça la foi qui sauve. Et si on comprend ça, si on va au-delà des principes dans l'amour, alors ça rend la vie. Et la vie n'est possible que quand on accepte de ne plus se laisser bloquer par des principes. Voilà. Et ça, je le crois très profondément. Et qu'on devient non pas guidé par des principes, mais par une simple attention à l'autre et une simple ouverture à l'autre. Et la vie n'est possible et on ne peut transmettre la vie que si notre seul commandement, ce n'est pas un corpus de règles, d'exclusion et de lois, mais que si notre seul commandement, c'est celui du Christ, c'est l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et alors, ça rend la vie à la foi, à la pratique, comme cette petite fille. Ça rend la vie à nous-mêmes et ça nous réintègre dans la société, capable d'être en lien avec les autres, et ça nous donne la possibilité à notre tour d'enfanter. Et la conclusion de cette histoire, c'est qu'effectivement, ça permet de trouver une nouvelle interprétation de la présence de Dieu et du sens pratique, ça permet de vivre. Mais Jésus conclut en disant, bon, maintenant, dernière chose, donnez-lui à manger. Et ça me plaît, donnez-lui à manger. C'est-à-dire, n'oubliez pas d'entretenir et de faire vivre cette foi qui est la vôtre et cette capacité à aimer qui est le vôtre, parce que Jésus et Dieu, nous, par son amour, son pardon, nous remet en marche. Mais maintenant, c'est à vous aussi de nourrir cette capacité à procréer et à transmettre qu'est la vôtre. Et donc, nourrissez-la, parce qu'on vous demande de prendre part à cette bonne nouvelle. Amen.